Alors Alexandre, bonjour, on est ici à Saint-Malo, près de la mer. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire comment s'est fait la rencontre avec Renaud pour cette superbe BD « Seul autour du monde » ?
Alors, 2008-2009, dernière édition du Vendée Globe. Pendant cette édition, on se retrouve avec Renaud à travailler sur... dans un même lieu, quoi. Et Renaud et moi, on remarque qu'on suit tous les deux le Vendée Globe, les péripéties, etc. Et qu'on regarde ça, moi j'ai envie de dire, comme deux gamins fans de cette course, des péripéties, des aventures humaines. Et quelques mois après la fin de la course, Renaud avait envie de dessiner, en gros, ces bateaux-là, les Imoca, qui sont des bateaux extrêmement modernes, les dessiner et ça suffit pas, il faut un scénario, donc on commence à en discuter et ça prend quelques mois et moi je pars entre autres en voyage, etc. Et en revenant, Renaud me dit si t'as envie on bosse ensemble et on se lance sur le scénario. Et donc voilà, on a co-scénarisé l'album et Renaud l'a dessiné.
Voilà, et c'est vrai que ça vous passionne jusqu'au point de faire ce livre. Vos souvenirs sur le Vendée Globe remontent à quelle édition?
Un des intérêts du Vendée Globe, c'est qu'on peut avoir des souvenirs diffus, parce qu'on peut autant avoir des souvenirs, un skipper qui se recoule la langue à un endroit ou un autre, on ne sait pas si c'est sur le Vendée Globe, on se souvient juste d'un gars qui est devant son miroir avec son fil en train de se recoudre sa langue, et puis on se dit mais c'est complètement aberrant ce qui se passe. On peut se souvenir de dernier bout d'une régate avec deux bateaux qui viennent de faire le tour du monde et qui se battent pour quelques heures pour arriver premier, donc on peut avoir plein de souvenirs et pas obligatoirement avoir compris que ça faisait partie d'un tout qui est donc cette course du Vendée Globe. Alors quand même, mon premier souvenir du Vendée Globe, je dirais la première édition certainement, mais par des bribes. Comprendre que c'est réellement une course, etc. Moi c'est assez récent, je dirais que ça fait deux éditions que je comprends ce qu'est l'intégralité du Vendée Globe, que je vois comme une intégralité. Mais après, le Vendée Globe, c'est une course, c'est des aventures, c'est le fait d'être seul, c'est le fait d'être longtemps en mer, c'est les mers du Sud. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et tous ces sujets, il y en a certains qui attirent peut-être plus Renaud, moi je vais être attiré par d'autres sujets. Et justement, c'est cet ensemble, c'est ce tout qui nous intéressait, d'interroger ce tout et de comprendre où ça pouvait nous mener.
Alors justement, ce livre parle seul autour du monde, parle de la mer, mais vous avez vécu aussi la mer, vous n'êtes pas simplement qu'un scénariste qui est cloîtré dans la BD, vous avez aussi vécu cet univers.
Alors, et Renaud et moi, on est marin, ça fait bien de dire marin, en tout cas on fait du bateau. Et Renaud aussi, d'ailleurs on a tous les deux une histoire familiale avec la mer, donc on a une famille qui était tournée vers la voile, etc. Après moi je suis plutôt parti vers la voile hauturière, la voile longue, donc passer plusieurs mois en mer, ce genre de choses, pas trop vers la régate. Renaud est peut-être un peu plus parti vers le côté régate, le côté technicité. Donc ça, c'est pour la voile. Et moi, j'ajoute à ça le Vendée Globe, ça se passe en mer sur un bateau, oui. Par exemple, j'ai déjà passé en solitude plusieurs mois d'affilée. J'ai déjà été longtemps en mer, j'ai déjà vécu des jolies tempêtes, j'ai déjà navigué dans les mers du Sud, ce genre de choses. Donc c'est cet ensemble qu'on a essayé d'harmoniser et les récits qu'on a eu des skippers, les lectures qu'on a pu faire sur cette course, on a mis tout ça ensemble et on a monté donc ce scénario.
Alors justement, quels sont les passages qui ont marqué pour vous, les parties qui ont marqué vos passages en mer, qui ont été marquantes et qui ont pu apporter un plus
à
cet ouvrage?
On fait du page par page, il n'y a pas de souci. Alors l'album déjà, c'est donc moi je le présente souvent en disant c'est une personne seule pendant 3 mois, dans des conditions difficiles. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui peut tourner dans la tête d'une personne dans ce genre de conditions? Donc, vous voyez, je ne parle pas du tout de bateau, je ne parle même pas de mer, je parle juste de conditions difficiles. Qu'est-ce qui a pu... je pourrais vous dire même chaque page ce qui a impacté. Mais en gros, savoir ce que c'est... la peur de mourir, mais réellement, quoi. Donc par exemple, avoir vécu le fait d'être mort, donc où à un moment intellectuellement on a validé qu'on était mort, et puis il se passe un concours de circonstances qui fait que finalement on n'est pas mort, hein, je vous parle aujourd'hui. Donc, mais ça par exemple, ça s'approche peut-être de ce qu'on peut vivre dans certains cas dans le Vendée Globe. Le fait de partir sur un voyage, la personne qui part est concentrée sur ce qu'elle fait, a prévu, sait où elle va, etc. Par contre, l'entourage, peut avoir peur pour l'ami, le copain, le fils qui part. Et justement, bah, voilà comment on réagit par rapport à la famille, le père, la mère. Donc ça, par exemple, dans les premières planches, on parle de ça. Qu'est-ce que, par exemple, vous êtes dans des situations difficiles, vous êtes seul, vous avez la possibilité, qui veut gagner des millions, vous avez la possibilité d'appeler un ami. Bon, vous l'appelez, mais qu'est-ce que ça implique psychologiquement? Vous sortez de votre bulle, vous vous êtes construit quelque chose, tout d'un coup, vous faites rentrer quelqu'un dans ce quelque chose, donc vous perdez l'équilibre. Voilà, il y a plein d'aspects que moi, je ramène d'expériences en montagne, d'expériences en mer, d'expéditions que j'ai menées. Je ramène là-dedans et on essaye de voir ce que ça donne plongé dans l'univers et dans les contraintes du Vendée Globe.
Alors justement, en faisant ce livre, vous avez aussi recherché, vous êtes intéressé à ce que recherche le skipper en participant à cette course.
Alors déjà, la dernière édition en 2008 était vraiment une édition exceptionnelle avec une trentaine de skippers. Là, on va en avoir moins, 20, mais ça veut dire qu'on en a énormément dans le sens où on est dans la marge haute de toutes les éditions du Vendée Globe, excepté le dernier. Vous avez 20 skippers qui partent, il y a 20 personnalités. On n'a pas essayé de faire une moyenne de ces 20-là. Ça ne nous intéressait pas. Donc c'est vraiment un skipper unique, comme le sont chacun des skippers. Vincent Rioux part en mer pour certaines raisons, il faudra lui demander pourquoi exactement. Certainement, ce n'est pas les mêmes qu'on va retrouver dans l'album. Je vous dis Vincent Rioux, j'aurais pu dire Jean-Pierre Dick, j'aurais pu tous les citer. Donc on n'a pas essayé de faire de moyenne, ça c'est certain. Et après, bah, moi je me suis interrogé, moi personnellement, pourquoi moi je pars 3 mois et demi en kayak de mer dans les canaux de Patagonie? Pourquoi je pars un mois en solo en haute montagne? Pourquoi ce genre de choses? Donc je me pose ces questions. Je les transpose, dans le cadre du Vendée Globe. On s'interroge avec Renaud, on se fait beaucoup d'allers-retours pour essayer de comprendre. Et on essaye de comprendre ce que le public perçoit du Vendée Globe et ce que peuvent vivre les skippers. On peut voir le Vendée Globe de manière totalement différente. Et nous, justement, on essaye de comprendre comment on va de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a des vérités ou des, pas des mensonges, mais des choses fausses. Et rapidement, on se rend compte qu'il n'y a ni vérité ni chose fausse, il y a juste des points de vue. Et qu'est-ce que chaque point de vue amène à l'ensemble de cette course et comment la légende du Vendée Globe naît?
Alors justement, dans cet ouvrage, on découvre le titre « Seul au monde ». Par exemple, on retrouve tout du moment qu'on a un accident, on a besoin de se soigner, on est seul.
Oui, ça, oui.
Donc
ça,
il faut
c'est...
avoir des
Alors,
techniques à la base.
Après, c'est... Je vais reprendre votre question, je vais la tourner un peu différemment, je pense, pour l'aborder autrement. Vous avez l'incident et l'accident. Certaines personnes vont partir en mer ou en montagne et vont tout faire, avoir une grosse théorie, s'être entraîné, etc. pour ne jamais avoir d'incident. Donc eux, leur but, c'est qu'il n'en arrive rien. Et puis, ils ont énormément de chances qu'il ne leur arrive rien puisqu'ils se sont préparés pour. Donc parfait. Seulement, le jour où il y a un incident, on passe tout de suite à l'accident. Parce qu'ils ne savent pas obligatoirement réagir à l'incident. Ils tombent dans l'accident et là, c'est la catastrophe. Il y a d'autres personnes qui partent en se disant « Vu là où on va, il y a de fortes chances que l'accident arrive. » Donc à ce moment-là, je vais me préparer, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. Mais je sais qu'il peut arriver, donc je vais surtout me préparer à faire en sorte que de l'incident à l'accident, je sache réagir et justement, on n'arrive pas à l'accident. Donc... quand vous partez sur le Vendée Globe, il me semble extrêmement important d'avoir prévu l'incident. Se recoudre, c'est pas très compliqué à apprendre. Vous apprenez ça sur les pieds de port, voilà, c'est un truc classique. tous les skippers doivent faire des stages de préparation. Donc, par exemple, voilà, se recoudre, c'est très spectaculaire. C'est pas obligatoirement un moment clé d'une course. Bertrand Debrock se coupe la moitié de la langue, se recoue la langue, tout le monde en parle. C'est vrai que c'est assez impressionnant, un gars en train de se recoudre la langue devant son miroir, c'est assez impressionnant. À côté de ça, il y a un autre skipper, j'ai un peu honte de moi, j'ai oublié son nom, qui, dans une manœuvre, se fait mal au dos. Mal de dos, il se casse 4 côtes. Il souffre, morphine, etc. Puis à un moment, il décide d'abandonner parce que trop douloureux. Le médecin de course, en plus, craint qu'il puisse y avoir des complications. Il rentre au port, il arrive, je ne sais plus où est le port, je crois en Australie. Quasiment personne n'en a parlé. Au niveau de la douleur, entre ce recoup de la langue et les côtes cassées, ça n'a rien à voir. Moi, les côtes cassées, je m'en suis cassé un paquet. Ça peut amener à la paralysie totale, on ne peut plus bouger, quoi. Donc c'est beaucoup moins spectaculaire, mais dans les faits, c'est beaucoup plus grave.
Alors, un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, c'est coubertiniste.
C'est dans le dictionnaire, mais il faut juste avoir le dictionnaire de Desjoyeaux. Ouais. c'est pour ça qu'on propose le dictionnaire à la fin de l'album. Vous avez un lexique. Bon, je ne vais peut-être pas vous le citer. Coubertiniste, c'était une expression de Desjoyeaux. Il expliquait qu'à un moment, donc sur la dernière édition, il part en gros avec 2 jours de retard. Il remonte la flotte. Pendant la remontée de la flotte, bah, il peut aussi réfléchir à plusieurs choses et il s'amuse à classer les concurrents. Et il les classe en trois catégories. Les favoris, ceux potentiellement qui vont faire un podium. Les outsiders, ceux qui a priori ne peuvent pas faire de podium mais sont dans la même optique et on se dit bah, avec un petit peu de chance ils peuvent y arriver, enfin voilà, ils peuvent faire une jolie surprise. Et les coubertinistes, ceux qui sont là, qui ne sont pas là pour gagner, qui sont là pour participer, leur premier but c'est d'arriver de la fin. Et donc effectivement ça renvoie à la phrase de Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner mais participer.
Alors justement, chose intrigante dans ce livre, la mère est quand même le deuxième personnage, elle ne parle pas mais elle peut s'exprimer.
Je passe la parole à Renaud.
J'ai essayé de faire vivre la mère pour que ce soit intéressant, quoi. Elle est toujours différente, il y a des moments de calme, de tempête et tout ça. Et graphiquement, d'ailleurs j'ai repris une technique que j'utilisais sur ma première série, une série aéronautique qui s'appelait Fox One, qui est de la couleur directe parce que je pensais que c'était plus adapté justement au décor qu'est la mère. Et j'espère avoir rendu ça vivant.
Il y a en gros, j'ai compté entre 500 et 600 cases dans l'album. Il va y avoir entre 400 et 500 fois dessiné la mer. Il me semble que Renaud a représenté 400 à 500 mers différentes, ce qui est quand même une jolie gageure. Après, au lecteur de voir s'il a apprécié ou pas. C'est...
Alors, est-ce que dans une BD par rapport au film, puisqu'on va en reparler après, on peut se permettre plus de liberté? Est-ce que vous avez plus de liberté par rapport
au cinéma?
Voilà.
Peut-être parce qu'on n'a pas les contraintes techniques de tourner réellement. Alors effectivement, il y a le film qui sort, je crois, dans un an. Là, ils vont tourner au départ. Et puis, moi, je suis tout seul avec mes crayons et j'ai pas besoin de tourner d'une grosse équipe, de gros moyens, d'aller en mer. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont faire techniquement, mais donc c'est de ce point de vue-là, c'est plus facile. Après, on est tout seul sur le projet, on n'a pas de technicien pour qui nous aide dans telle ou telle discipline. Donc ça, c'est la difficulté d'essayer de faire vivre, parce que ça participe un peu du même travail, quoi. Mais là, bon, moi, on est tout seul avec sa planche à dessin, son scénariste en l'occurrence, mais pour faire l'album. Donc c'est la difficulté d'être solitaire dans le travail.
Alors justement, il va y avoir aussi le film qui va sortir. Est-ce qu'il y a un lien avec le film? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des contacts, des choses comme ça?
Il y a eu des contacts dans le sens où on s'est appelé, on a discuté, mais après, il n'y a pas de lien factuel, quoi. Après, au niveau du public, il n'y a aucun lien. Au niveau du scénario, alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du scénario de cinéma. D'après ce que j'en sais, d'après les grandes normes, etc., on ne répond pas obligatoirement aux mêmes normes de scénario en cinéma et en BD. Entre autres, en BD, avoir un personnage, ça fonctionne plutôt bien. En cinéma, c'est rare. En général, on a un petit groupe. Il y a ce genre de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, parler d'un solitaire en BD est mieux qu'en cinéma? Je n'irai pas jusque-là. Par contre, il y a quelque chose, à mon avis, fondamentalement différent entre la BD et le cinéma. Déjà, c'est que la BD, c'est du dessin. Donc, le lecteur, face à un dessin, peut s'évader et peut s'imaginer des choses. Face à un film, on est face à une image réelle. Donc, on peut certainement moins s'évader. Donc, il faut, à mon avis, que le cinéma montre peut-être plus que la BD pour nous emmener dans un ailleurs. Et après, il y a la notion du traitement du temps. Entre deux plans de cinéma, donc il y a un noir, au spectateur de s'imaginer ce qui se passe. En BD, entre chaque case, il y a un blanc, là, en l'occurrence, au spectateur, là aussi, de s'imaginer, et ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc c'est quand même des manières de construire un récit qui sont assez différentes.
Alors justement, vous avez une préface d'Arnaud Bassière. Est-ce que je pense qu'en termes de voile, tout le monde se connaît?
Alors Arnaud, en fait, on l'a rencontré par personne interposée, entre autres par Didier Ravon de Voile et Voilier. Je suppose même que tout le monde rencontrant Arnaud se rend compte que c'est un gars hyper sympa. Il nous a proposé d'aller sur son bateau, on est allé naviguer avec lui. Donc on a rencontré Arnaud, mais on a aussi rencontré toute son équipe. Guillaume Le Fur, Stan Mallard, Étienne, enfin voilà, il a une équipe autour de lui, ça aussi c'est assez intéressant. On parle souvent des skippers, à juste titre, on parle parfois moins de leurs équipes, alors qu'elles ont un rôle très important. Elles ont un rôle important, c'est aussi par exemple amusant de voir que un ou une attachée de presse peut se dire bon techniquement fait partie du projet, mais aujourd'hui ils font partie intégrante du projet. Quand on voit la guerre psychologique que se livre chaque skipper en annonçant tout et n'importe quoi juste pour déstabiliser le concurrence, qu'on a par exemple essayé de présenter une petite astuce dans l'album, mais maintenant même l'attaché de presse fait vraiment partie de la course, enfin il y a tout ça. Donc nous on a rencontré Cali, on est allé naviguer avec lui, on a aussi rencontré toute son équipe, et depuis il nous a fait la gentillesse d'une préface. Il y a aussi quelques pages à la fin où on propose une interview d'Arnaud, de Guillaume, donc son beau de capitaine, de Denis Auro, le directeur de course du Vendée Globe, pour avoir justement des points de vue un peu différents sur la course. Et puis avec Arnaud, lui actuellement c'est plutôt sympa, on s'entend très bien et on verra ce qui se passe par la suite, mais on s'entend très très bien avec Arnaud.
Alors justement, quel est vous un petit peu les skippers qui pourraient cette année ressortir sur ce Vendée Globe?
Pronostic.
Voilà.
Pronostic de Renaud Garretta.
Non mais enfin je crois que tous les skippers, moi je les suivrai tous. Bon, c'est sûr qu'il a été navigué avec Arnaud, avec Cali, là, il y a forcément ça crée des liens et on le suivra. Je le soutiendrai plus que les autres. Quoi. Après, il y en a plusieurs qui peuvent gagner, il y en a qui ne partent pas pour gagner, mais ce sera une aventure extraordinaire. Et non, je vois pas de. Enfin, les favoris sont dans les magazines, on les connaît tous. Il y en a 4 ou 5 qui sont susceptibles de gagner. Et après, il y a les outsiders, dont Cali fait partie. Et voilà, je leur souhaite à tous bonne chance et bon vent.
Donc justement, maintenant, l'album est sorti. Quels sont maintenant vos projets? Parce que je pense qu'en tant que scénariste, on a d'autres projets dans les cartons.
J'ai effectivement d'autres projets, pas uniquement de la bande dessinée. Il y a aussi des livres, des nouvelles, etc. La plupart de mes projets, on en parlait ce midi avec Renaud, parlent autour de la solitude. Qu'est-ce qu'un. Voilà, ce genre de choses. Juste sur la question d'avant, sur les skippers, j'aimerais citer Jean-François Coste et Rich Wilson, première édition et dernière édition, qui sont parmi tous les skippers qui ont fait le Vendée Globe, deux skippers qui m'ont particulièrement intéressé au niveau de la communication. Et c'est vraiment agréable des moments d'avoir des skippers qui arrivent qui ont la volonté, ça ils sont nombreux, mais là aussi qui arrivent à vraiment s'ouvrir et à parler de choses parfois un peu étonnantes et de manière assez impudique, mais de manière belle. Ces deux skippers en font partie. En tout cas moi à chaque fois que je travaille en écriture, j'essaye un peu de faire ça, c'est d'oublier toute pudeur et essayer de proposer des raisonnements. Là par exemple on part du Vendée Globe, j'espère que ça touche certaines questions beaucoup plus larges qui peuvent nous intéresser dans notre vie de tous les jours. Et puis donc il y a des projets derrière. Renaud va pouvoir vous parler de projets beaucoup plus en détail.
Moi j'ai toujours mes deux séries qui marchent plutôt bien, donc je continue, à savoir Insider, c'est le maître de Benson Gate. Et là, je suis sur le premier album d'une nouvelle série, où là, je fais...